Nous sommes le lundi 8 mars, il est 18h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, La Relève reçoit aujourd'hui ce qu'on appelle une primo-romancière. Elle nous emmène découvrir la vie dans une ZAD en fin de course, côté occupant mais aussi côté force de l'ordre. Et ça donne un roman subtil et passionnant. Bonjour Marguerite Imbert.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice de « Qu'allons-nous faire des jours qui s'annoncent » aux éditions Albin Michel. C'est votre premier roman. Quand j'ai dit pourtant que vous étiez primo-romancière, c'est à moitié vrai car je crois que vous essayez depuis longtemps à l'écriture. J'ai lu que vous aviez 13 ans la première fois que vous aviez écrit. Vous vous souvenez de ce qui était alors votre moteur ?
Oui, alors à 13 ans, j'ai écrit une espèce de roman sur une invasion de singes intelligents qui, pour protester contre la déforestation en Amazonie, envahissait la Guyane française et décapitait le préfet. Donc, c'était un premier essai littéraire.
C'était de la littérature engagée à l'époque ? Vous vouliez vous engager, c'est ça ?
Oh, alors engagée gentiment, comme quelqu'un qui a 13 ans, en fait. Mais le premier essai que j'ai fait en termes de littérature, c'était un recueil de nouvelles uchroniques qui parlait de Paris, de pollution, de raz-de-marée aussi, que j'ai envoyé à Albin Michel. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Lina Pinto du service des manuscrits. Et c'est elle qui m'a conseillé d'écrire un roman. Et c'est comme ça qu'est venu Qu'allons-nous faire de ces jours qui s'annoncent.
Parce que la nouvelle aujourd'hui, c'est toujours difficile pour un éditeur, surtout d'un jeune auteur, c'est compliqué à commercialiser.
Absolument. Ouais. Alors, surtout sur le marché français, c'est-à-dire que ça a plus de succès sur le marché anglo-saxon. Mais dans la culture française, c'est vrai que les nouvelles, c'est plus quelque chose qu'on fait quand on est déjà connu. Ou... Ça n'a pas beaucoup de succès.
Mmh. Comment vous venez d'écrire un roman qui se déroule à Notre-Dame-des-Landes ? Je sais que vous-même, vous y étiez, mais comment vous avez fait pour en saisir la matière romanesque ?
Alors, à vrai dire, la matière romanesque est venue immédiatement, c'est-à-dire que... C'est le principe même de la ZAD qui est romanesque, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de camper sur un terrain pour l'empêcher d'être récupéré par une industrie. Il s'agit donc, une fois qu'on est là sur ce terrain, de le penser, de faire corps avec lui et de poser les fondations d'une mini-société. Et ça, c'est forcément fascinant. C'est-à-dire que on est sur une réinvention des fondamentaux du monde, qu'il s'agisse de société, d'économie, de rapports humains, etc. Donc la réinvention par le menu de ce qui compose le tissu social. C'était tellement une aventure que oui, j'ai vu la matière romanesque immédiatement, surtout que dans les affrontements qui ont eu lieu, dans cette violence à laquelle j'assistais, donc les trous de grenades, des gens prêts à tenir un siège, en face, on avait une troupe cuirassée, un tank, etc. C'était tellement extraordinaire, en fait, dans ce cadre complètement bucolique que oui, j'ai vu cette lassitude, cette envie d'en découdre et une polarisation qui était vraiment stupéfiante, il y avait une histoire à raconter.
C'est ça qui vous intéresse, parce que moi je me suis demandé pourquoi vous l'aviez situé au dernier jour de la ZAD, hein, et même s'il y a des flashbacks qui reviennent sur l'avant, c'est que la fin est plus intéressante à ce moment-là, il se passe que quelque chose se cristallise qu'on ne verrait peut-être pas dans le récit des jours tranquilles d'avant.
Oui, je dirais que à la fin, la polarisation est exacerbée forcément, parce qu'on est sur un épuisement généralisé, on est sur un épuisement des forces de l'ordre, mais on est aussi sur un épuisement des militants. C'est-à-dire qu'on est arrivé un peu à bout de souffle, à force de harcèlement, de gens qui s'en vont, de gens qui s'inquiètent. Finalement, il n'y a pas qu'un seul zadiste. Il y a plein de profils des zadistes qui vont du modéré au radical. Ils ne s'entendent pas tous entre eux, ce qui est normal, c'est-à-dire que c'est une communauté à part entière qui a posé les bases d'un dialogue menacé justement par ces incessantes tentatives d'expulsion. Donc là, le dialogue s'effondre, les gens sont stressés, ils ont peur pour l'avenir, surtout il y a des traitements médiatiques qui sont étouffants. Donc dans la fin, en fait, se révélaient énormément de choses, se révélaient beaucoup d'émotions, beaucoup d'humains. Alors évidemment, c'était le cas au début, le début était aussi un moment passionnant, mais je dirais que le début n'est pas propre à Notre-Dame-des-Landes. Le début, ça va être aussi les années 60, 70... toute la communauté de l'art, aux États-Unis, la nef des fous, etc. Toutes ces
on voit à la fin
qui vont fleurir en Europe.
À la fin, il y a même des profiteurs, finalement. On ne va pas révéler, mais il y a même des gens qui profitent de la situation de façon assez honteuse. Un de vos personnages va l'apprendre à son dépens. Mais justement, je pense à Hazel et à son mari Dorian. Comment vous les avez inventés ? Ils existent ? C'est des gens que vous avez juste un peu déplacés ou c'est vraiment des personnages que vous avez complètement inventés ?
Alors ça, je l'ai complètement inventé. C'est-à-dire que l'histoire est inspirée de faits réels, mais le cadre est vraiment celui d'une réalité, le reste est fictif. C'est-à-dire que, de toute façon, je suis partie du principe que la vie n'avait pas autant de cohérence narrative qu'un livre, ouais. Et que ça irait. Donc, le personnage d'Azel et Dorian, en fait, c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que ils sont pas nés dans ce milieu militant. On suppose que leurs parents étaient un peu dépolitisés. Donc, eux, ils sont entrés dedans, en fait, comme des novices. Ils n'ont pas les codes. Ils sont pas sûrs de faire les choses bien. Et c'était important pour moi, en fait, de présenter des gens qui n'étaient pas des professionnels, finalement, de la rébellion, parce qu'il y a des gens qui sont formés à ça, c'est-à-dire entre eux, qui font partie de groupes, qui s'entraident, qui ont beaucoup de soutien, en fait, là-dedans, finalement. Et eux, ils sont un peu largués, ils sont un peu tout seuls, et je voulais que ça puisse parler, du coup, à un lecteur qui ne soit pas lui-même dans le militantisme, qui puisse imaginer des raisons pour lesquelles quelqu'un dont le quotidien n'en parle pas spécialement hors normes, peut se sentir attiré par la ZAD.
Oui, et puis
tout le monde se sent un peu zadiste, en fait.
Puis ils continuent de s'interroger, même une fois qu'ils sont là, est-ce qu'ils vont rester, comment, et là, il y a une dynamique du groupe, une dynamique ou une absence de dynamique du couple, ça aussi, c'est très romanesque.
Oui, il y a ce petit garçon aussi qui se présente
un petit garçon qui s'appelle Louis.
Voilà, c'est ça, leur fils qui est malentendant. Et il y a ce leitmotiv du bruit. Ils ont voulu le faire échapper au bruit. Ils ont voulu conjurer ce bruit qui mettait Louis à part. Ce bruit aussi qui leur a eux-mêmes fait beaucoup de mal, donc avec Ariel et son job de publicitaire. Donc les interrogations ne s'achèvent pas quand ils sont sur la ZAD, puisque la ZAD est une construction permanente. Comme il s'agit de tout réinventer, et qu'ils font partie justement de ce processus, ils ne peuvent pas simplement se permettre de s'intégrer à une société déjà faite. C'est un projet au long cours qui a vocation d'ailleurs à rester en chantier. Parce que un des aspects primordiaux de la ZAD, c'est cette envie d'être une communauté solidaire. Or, la communauté solidaire ne doit jamais essayer de se remettre en question, de réinventer ses façons de faire, de redonner de la visibilité et de la voix aux personnes qui n'en ont habituellement pas. Donc, je dirais qu'on ne peut pas se permettre de suivre des règles, on ne peut pas se permettre d'être codifié, en fait. Quand on arrive sur la ZAD, il faut être prêt à tout rebâtir.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
Oui, pardon, vous disiez, c'est le deuxième accident de virgule qu'on a en ce moment, on a des problèmes de virgule. Vous disiez pardon.
Non, pas de problème. Non, je dis simplement que ça va être difficile pour eux.
D'accord. Un des partis pris très fort de votre livre, c'est de vous intéresser aux deux côtés, donc les zadistes, mais aussi les gendarmes. Est-ce que ça, c'est parce que c'était une nécessité par rapport à la construction de votre récit que vous aviez envie de ne pas être seulement d'un côté et de mettre un peu d'ambiguïté, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert quand vous-même vous étiez à Notre-Dame-des-Landes et que vous avez eu envie de creuser ?
Alors, c'est quelque chose que j'ai eu envie de creuser, effectivement. Alors, j'ai mis une petite scène dans le livre dont j'ai été témoin, c'est-à-dire qu'il y avait ce barrage de gendarmes devant un certain nombre de manifestants qui leur chantaient des chansons, etc., qui leur jouaient des pâquerettes. C'était plutôt bon enfant, mais dans l'ensemble, il y avait une tension grandissante au sein du barrage de gendarmes. Et à un moment donné, il y en a un qui a pété un câble, alors que quelqu'un l'insultait, je crois, depuis une lutte. Qui est retourné et qui a lâché un formidable tatouage. C'était tellement humain et tellement craquage, en fait, que je ne sais pas, ça m'a donné vraiment envie de comprendre quel genre de colère commune, en fait, il peut y avoir entre ces deux pôles, en fait, qui ont envie de se faire disparaître mutuellement. Et c'est ça qui est un thème qui me fascine, c'est l'existentialisme.
C'est
l'idée qu'avec la disparition des cultes, on est rendu à se forger nos propres croyances, nos propres peurs aussi. Donc c'est à la fois une libération qui permet de réinventer la société, mais c'est aussi un fardeau, parce que le fardeau est fondamentalement individuel. Donc ça veut dire que les gendarmes, comme les zadistes, sont responsables individuellement de leur propre bonheur. Ils sont tout seuls aux manettes, et ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'ils doivent se forger leur propre code moral, ils doivent se situer dans l'échelle du monde en général. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment les gens faisaient cohabiter leur respiration et leur envie de vivre en société. Ce bricolage-là. Et ce bricolage, il existe du côté des gendarmes, mais aussi du côté des zadistes. J'avais envie de montrer aussi que le quotidien était le plus petit dénominateur commun de l'idéalisme. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, qu'on soit Bastien, gendarme ou qu'on soit Hazel, jadis, on finit tous par se heurter aux mêmes limites épuisantes d'un quotidien qu'on s'est choisi et qu'on doit bâtir nous-mêmes sans l'aide de personne. Et ça, c'est...
Ouais, vous, vous écrivez, page 280, j'avais noté, il partageait une valeur commune, celle de diminuer l'importance de l'individu dans une société individualiste, celle de s'aligner sur un objectif commun supérieur entre tous. Il y a un précipice tapis dans le ventre de chaque humain. Il faut une cause plus grande que soi pour le combler. Pardon, j'ai un peu mal lu. J'ai du mal avec cette phrase. Il faut une cause plus grande que soi pour le combler. Ce que vous montrez aussi, finalement, c'est que les fractures politique ne recoupe jamais les coupures existentielles, les cassures existentielles des personnages. Ils sont... On peut être de deux côtés et finalement partager la même brisure existentielle.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Bastien est un personnage qui a soif de quelque chose. Il n'est pas sûr de savoir exactement de quoi. Et Hazel, c'est pareil, finalement. C'est un personnage qui est plein de rage, comme on a décrit tout au début. Je crois que les insatisfactions en fait, fondamentales chez ces deux individus et leur malheur qui en commun, c'est de se rendre compte qu'ils sont insatisfaits, en fait, et de ne pas l'attribuer à quelqu'un d'autre ou à leur environnement, mais vraiment de se dire c'est moi, en fait, au fond, qui a un problème. Et donc, ils vont chercher n'importe quoi, quelque chose, l'armée, la ZAD, etc., pour se sortir de cette conviction de ne pas être à leur place.
Votre éditeur qui est malin raconte, dans quand il envoie votre livre, il y a un communiqué avec qui raconte que vous avez travaillé au Japon dans une maison de geisha. Je vais vous demander, vous pensez que la ZAD est plus exotique que le Japon? Plus romanesque aussi?
Plus exotique? Ou... Vous entendez par exotisme?
Bah, plus loin de nous, plus éloigné de notre quotidien?
Non. C'est-à-dire que... Je dirais que finalement, ça relève du même genre d'exotisme parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui est notre quotidien finit toujours par devenir ordinaire. Ouais. C'est-à-dire que quand on soit dans une maison de geisha au Japon ou sur la ZAD, le premier jour, on ne sait pas trop ce qu'on fait là. Et au bout d'une semaine, c'est comme si on avait été toute notre vie. Donc,
C'est tout à la fin de votre livre et c'est bientôt la fin de l'émission. Presque la dernière phrase du livre, vous écrivez décidément, j'ai du mal avec les citations, vous écrivez deux points. La ZAD n'est pas une réponse, c'est une question qui s'élève au-dessus du bruit. Vous aviez des questions, vous, quand vous y êtes allé?
Oh, alors, je n'avais que ça des questions quand j'y suis allée. C'est-à-dire, jusqu'où on peut aller dans la réinvention? En fait, jusqu'où est-ce qu'on peut remettre en question ce que jusqu'à présent on tenait pour acquis? Donc oui, toutes ces questions qui sont immenses, je disais qu'elles s'élevaient au-dessus du bruit parce que finalement, ce sont des questions qui ont une certaine innocence en fait en elles, une certaine candeur philosophique en fait, puisqu'on remonte à... On remonte l'échelle des questions jusqu'à la question initiale qui est « Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà.
Et vous diriez que vous avez changé, ça vous a transformé ?
Ça m'a... Alors, je ne sais pas si ça m'a transformé, mais par contre, j'en ai conçu un grand respect, en fait, pour les personnes qui réussissent en fait à trouver leur équilibre dans quelque chose qui est vraiment en dehors de la société, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le terrain est balisé en fait quand on accepte le contrat social, quand on accepte que la police c'est le monopole de la violence légitime, que la loi c'est la loi et qu'elle est systématiquement juste. Quand on sort de ce système-là, et ben d'un coup on se retrouve dans une espèce de no man's land qui est effrayant, effectivement, on a l'impression d'être livré à soi-même, on devient très vite hors la loi et il faut se réinventer une logique, une communauté, et ça c'est terrifiant, donc beaucoup de respect pour les gens qui décident de s'attaquer à ce boulot immense, et je pense qu'il y en aura de plus en plus.
Vous-même, vous pourriez repartir?
Ah, c'est possible, oui.
D'accord, mais vous continuerez à écrire quand même?
Ah, oui, absolument, j'ai plusieurs romans sur le feu, donc...
Bah écoutez, en tout cas, on les lira avec plaisir. Merci beaucoup, Marguerite Imbert, d'avoir été avec nous ce soir à Radio Campus Paris à La Relève. Je rappelle que vous êtes l'autrice de « Qu'allons-nous faire des jours qui s'annoncent » aux éditions Albin Michel. C'est un premier roman que nous vous recommandons. Voilà, c'était La Relève, c'était proposé et préparé par Christophe. La réalisation était assurée par Elliot. Et à dans 15 jours, si tout va bien et qu'on n'est pas tous confinés.